Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.
Bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Aujourd'hui, évidemment, journée internationale des droits des femmes. Hier, vous avez vécu une soirée pas comme les autres. Vous étiez sur au théâtre Bobino, sur la scène, pour jouer, entre guillemets, les monologues du vagin. C'est un texte à succès sur la condition des femmes dans le monde. Vous étiez avec Roselyne Bachelot, Myriam El Khomri, deux anciennes ministres. Pas banal, c'était bien. Contente de l'expérience ?
Oui, c'était très bien. C'était l'occasion pour nous de passer des messages, effectivement, sur la vie des femmes, à la fois sur les mutilations sexuelles ou les viols de guerre, mais aussi sur le plaisir et la sexualité féminine dont on ne parle pas assez, je crois.
Vous êtes membre du gouvernement, Marlène Schiappa. Qu'est-ce que ça apporte à votre mission ?
Mais écoutez, justement, ça fait passer un message politique. Moi, je voudrais dire que la honte pour des jeunes filles ou pour des femmes de leur propre sexualité, de leur propre vagin, puisque c'était le thème de la pièce, ça nous amène à des conséquences graves de santé publique. Par exemple, des jeunes filles qui ne vont pas chez le gynécologue, qui ont honte d'aller à la pharmacie chercher un moyen de contraception avec des conséquences graves derrière.
Donc vous dites que la présence d'un ministre au théâtre, ça fait progresser votre cause ?
Bien sûr,
c'est la
même
question.
De trois
vous ne
ministres
pipolisez pas
ministres.
Votre fonction ministérielle, c'est ça ma question.
Je ne crois pas que ce soit le sujet. Je crois que le sujet, c'est de quelle manière on peut parler de ces sujets, en faire un thème important, primordial, partout dans la société, au-delà des sphères féministes déjà convaincues. Et ça, c'est un bon moyen, je crois, de le faire.
Oui, mais c'est ça aussi, le renouvellement de la pratique politique.
Bien sûr.
C'est ça,
c'est
d'être
ça
ministre et d'aller sur la scène, ou d'être président et de lire Pierre et le Loup.
C'est absolument. La même l'idée, c'est de ne pas être technocrate et de parler à tous les Français et toutes les Françaises. Et en ce qui me concerne, mon objectif principal, c'est décloisonner le sujet de l'égalité femmes-hommes et faire qu'on en parle le plus possible.
C'est fait. Alors, le gouvernement a annoncé hier des mesures pour résorber les écarts de salaire. Ils sont encore de 9% à poste et temps de travail équivalent. J'ai regardé, je crois qu'il y a eu 12 lois. Et depuis 1972... Depuis 1972, la loi, c'est dans la loi, il y a obligation pour les entreprises, évidemment, d'appliquer l'égalité salariale. La loi ne garantit pas le progrès, à l'évidence, on le voit là. Pourquoi en rajouter d'autres ?
Alors là, l'idée, c'est pas de rajouter des lois immédiatement. Les propositions que nous avons formulées, c'est par exemple la création d'un logiciel qui fasse en sorte immédiatement d'intégrer au calcul de paye les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Il y a un certain nombre de, entre guillemets, bonnes pratiques et d'actions publiques qui ne passent pas forcément tout de suite par la loi. Mais vous avez raison de le rappeler, la première loi sur l'égalité professionnelle, je n'étais même pas née, j'ai 35 ans, ça veut dire qu'à l'échelle d'une génération, il n'y a pas eu de progrès sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Donc il y a une forme de sentiment d'urgence.
Parce qu'elles ne sont pas appliquées.
Parce qu'elles ne sont pas assez appliquées.
Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sanctions ?
Alors d'abord parce qu'il n'y a pas de sanctions, c'est pour ça qu'on passe de 1000 et quelques inspecteurs du travail sur ce sujet à plus de 7000, et que ce sera une des priorités là au cours des prochaines années, et que ce sera une priorité...
Avant la fin du quinquennat, il y aura 7000 inspecteurs du travail qui seront mobilisés sur
ce sujet. Absolument, c'est ce que la ministre du travail a indiqué. Mmh. Et parmi leurs priorités, il y aura le contrôle effectif des mesures d'égalité entre les femmes et les hommes, mais le contrôle de résultats. Parce que là, la loi, elle prévoit une obligation de moyens. Nous, ce que nous voulons faire, c'est une obligation de résultats et faire en sorte que les entreprises qui n'ont pas de résultats soient obligées de s'expliquer et à terme soient sanctionnées.
Alors, ce logiciel, il mesurera les écarts de salaire. Oui. Ce sera transmis aux représentants du personnel. Il y en a certains qui disent, mais pourquoi ne pas appliquer, vous savez, la fameuse pratique name and shame. Pourquoi ne pas mettre sur la place publique le nom des entreprises qui, effectivement, appliqueront des écarts qui ne sont pas dans la loi, plutôt que d'attendre quoi, 2022 pour que les premières sanctions partent ?
Alors, l'idée de ce logiciel, on s'est inspiré d'un logiciel suisse qui s'appelle Logib, que nous testons depuis plusieurs mois avec le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle que je préside. Et l'idée, c'est justement de donner tous les moyens aux partenaires sociaux pour pouvoir mieux négocier. Le name and shame, vous savez que je le pratique pour la féminisation des entreprises. D'ailleurs, on fait du name and shame, donc on dénonce les mauvais élèves, mais on honore aussi les bons élèves, puisque tout à l'heure, avec le président de la République et Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud, nous allons, avec la maire de Paris, chez Jessina, qui est numéro 1 de ce classement de la féminisation des femmes à la gouvernance des entreprises.
Vous ne m'avez pas tout à fait répondu, alors je n'ai pas tout à fait compris. Pourquoi ne pas aller jusqu'au name and shame, c'est-à-dire mettre sur la place publique ces entreprises
Parce que
vous trouvez ça contre-productif parce que...
Non, pas du tout, je vous ai répondu. Moi, je suis très favorable au name and shame pour ce qui concerne les discriminations, les inégalités de salaire, donc j'ai aucun souci avec ça.
Vous vous donnez une borne, je parlais de 2022 pour les inspecteurs du travail, pour appliquer les entreprises, les sanctions sur les entreprises, c'est 2022. Est-ce que vous vous engagez à ce qu'avant la fin du quinquennat, les écarts de salaire soient résorbés ?
On s'engage. Le World Economic Forum a calculé que l'année de l'égalité...
Forum économique mondial.
Voilà, merci. Le Forum économique mondial a calculé que l'égalité professionnelle au niveau mondial, elle serait atteinte en l'an 2234. Donc justement,
dans le monde.
Notre enjeu...
Rassurez-nous, dans le monde, dans
le
deux siècles.
Absolument, dans plus de deux siècles. Donc tout l'enjeu de la France, c'est de reprendre une position de leader mondial sur ce sujet et de ramener ce chiffre à la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc pour ça, nous créons une task force publique-privée avec le World Economic Forum, co-présidé par deux ministres, Bruno Le Maire pour l'économie et moi-même pour l'égalité femmes-hommes, et par deux personnalités du monde des entreprises, un certain nombre
de patrons.
Bernard Arnault d'LVMH, Christelle Ederman de Schneider Electric, Bernard Michel de Gecina, donc Sophie Bellon de Sodexo, Nicolas Dufour de la BPI et Sophie Errant qui est présidente du conseil de surveillance de la CDC. Donc ils seront tous dans cette task force et on est le premier pays européen à créer cette task force publique-privée. Donc là, on n'est pas dans la loi, on est dans l'action et le but, c'est d'expérimenter, d'innover et de faire tout analyser en temps réel par le World Economic Forum et par des chercheurs indépendants qui puissent nous orienter dans nos politiques publiques.
Oui. Vous pouvez nous préciser, donc ça, c'est, vous nous annoncez ça ce matin, cette task force que vous présiderez avec Bruno Le Maire, mais par rapport aux dispositions qui ont été annoncées hier et qui se veulent aussi très précises, très concrètes, ça se combinera comment ? Ce seront des rapports que vous remettrez ? Mais en quoi est-ce que là, il y aura effectivement aussi de l'action ?
Alors d'abord, il y a de l'expérimentation et ensuite, c'est la première fois qu'il y a un partenariat public-privé. Nous, ce que nous disons, c'est que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour résorber les écarts de salaire, mais ne peut pas tout seul. On a besoin des entreprises et on a besoin que ce soit évalué. Et c'est ça, la grosse valeur ajoutée du Forum économique mondial, c'est qu'il y a des chercheurs éminents qui évaluent en toute transparence et qui publieront les résultats de leurs recherches année après année pour qu'à l'échelle de 3 ans, il y ait une vraie différence qui soit formulée.
Alors, avant cela, vous présenterez dans 15 jours votre projet de loi pour, disons, modifier les condamnations en ce qui concerne les rapports sexuels entre les majeurs et les mineurs, notamment puisque vous allez fixer, par la loi, vous souhaitez fixer l'âge du consentement sexuel à 15 ans. Toute pénétration sexuelle entre un majeur et un mineur de 15 ans et moins sera considérée comme un viol, même s'il n'y a pas violence.
Absolument. L'idée, c'est de dire que on n'admet pas que des enfants de 9 ans, 11 ans, 12 ans, qu'on puisse y avoir un débat sur leur capacité à être consentant à un rapport sexuel avec un adulte. Je crois que ce qui marque la civilisation, c'est aussi les interdits. Et je crois que c'est important de dire que pour un adulte, avoir un rapport sexuel avec un enfant, c'est de la pédophilie, c'est de la pédocriminalité, ça n'est pas accepté par la République française.
Ça veut dire que toute relation sexuelle, Marlène Schiappa, avec un mineur de 15 ans et moins, est interdite.
Ça veut dire qu'elle est interdite et ça veut dire qu'elle sera considérée comme un viol dans la loi. Donc il reste une capacité d'appréciation des magistrats parce que je vois, vous voulez en venir, le cas de quelqu'un de 14 ans et demi qui a une histoire d'amour avec quelqu'un de 18 ans et demi ou de 20 ans. Effectivement, un, il n'y aura pas de plainte déposée et deux, même s'il y avait des plaintes déposées par les parents ou par des proches, le magistrat pourra bien sûr garder sa capacité d'appréciation.
Alors, s'il y a
et
plainte,
son libre arbitre.
Ce ne sera pas systématique. Les magistrats auront le dernier mot en tout état de cause.
Évidemment, moi je crois que c'est ce qui fonde l'état de droit, c'est qu'il n'y a pas de peine automatique et que les magistrats sont là pour instruire, c'est bien une partie de leur rôle.
Vous créez aussi un délit de harcèlement de rue, on en parlait tout à l'heure avec Alba Ventura. Inapplicable, disent la plupart de ceux qui observent votre,
non, pas la
votre
plupart.
Initiative.
Non.
Beaucoup. Vous dites l'important, mais l'important c'est de faire progresser culturellement les mentalités, c'est le symbole.
Pas uniquement, non. D'abord, moi je crois qu'il est applicable, sinon le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, n'aurait pas demandé
en
aux forces de
délit.
L'ordre. Mais bien sûr, enfin, vous connaissez le sérieux du ministre de l'Intérieur, je crois pas une seule seconde que s'il pensait que les forces de l'ordre ne pouvaient pas véritablement mettre des amendes en flagrant délit, il porterait également cette mesure. Donc c'est tout à fait applicable. Il y a 10 000 policiers de la police de la sécurité du quotidien qui seront recrutés et formés notamment au point névralgique pour cela. Mais bien sûr, il y a aussi une partie pédagogique. On n'a jamais autant parlé du harcèlement de rue que depuis qu'on a dit qu'on allait l'interdire.
Face aux manifestations et désistements de certains festivaliers et mécènes, l'Ardèche, un festival d'Ardèche, annonce avoir retiré de son programme Bertrand Cantat, pardon, l'ancien évidemment chanteur de Noir Désir. C'est le deuxième festival qui annule récemment sa tournée. Quelle est votre appréciation ? Il a purgé sa peine. Mais est-ce qu'il reste encore un paria? Est-ce qu'il ne doit pas se produire sur scène, selon vous?
Il y a une liberté de programmation des festivals et des festivaliers, de la même manière qu'il y a une liberté de financement des élus. Moi, je crois que Bertrand Cantat, comme tous les gens qui ont été condamnés et qui sont sortis de prison, a le droit, bien évidemment, de travailler. Ça n'est pas le sujet. Ce qui est problématique, et je l'avais dit quand
il
était...
Qu'est-ce que vous dites au directeur de festival qui s'interroge?
Alors,
c'est ça ma question.
Ce qui est problématique pour moi, et ce que j'avais dit quand il était en une du magazine Les Inrock, c'est d'en faire une forme de héros romantico-rock, de dire il est tourmenté, de le plaindre. Je crois que il
mais
faut rappeler...
au-delà de ça, vous ne dites pas au directeur de festival, pour la cause des femmes, il serait préférable de ne pas l'exposer sur une scène.
Moi, ce que je dis, c'est qu'il est préférable pour l'humanité, pour le genre humain, et pas uniquement pour la cause des femmes, de ne pas en faire un héros, de ne pas faire des posters à son effigie. Maintenant, comme tout le monde, il a le droit de travailler, mais je crois qu'il faut avant tout se rappeler de Marie Trintignant.
Et si on supprimait les mises du Tour de France? On en parlait dans le journal de 7h de RTL tout à l'heure.
Écoutez, dans le cadre du Tour de France de l'égalité femmes-hommes, on a déjà fait un atelier sur les 24 heures du Mans qui a supprimé les grid girls, vous savez, les femmes qui tenaient les panneaux. Pour le Tour de France, le débat est ouvert.
Et alors, vous n'avez pas d'opinion personnelle?
Si, moi, mon opinion personnelle,
vous, quand
c'est...
vous les voyez accueillir avec des brassées de fleurs, le gagnant
moi,
du jour, le maillot à pois jaunes,
l'important,
ou à pois rouges, rouge, d'ailleurs, et jaune tout court.
L'important, c'est de dire et d'affirmer que les femmes doivent pouvoir être des sportives, des supporters, des entraîneuses. C'est pour ça qu'avec Laura Flessel, on a installé la conférence permanente du sport féminin et qu'elle va annoncer tout à l'heure des objectifs très importants de féminisation du sport.
L'idée, vous mouillez pas sur ce sujet?
Non, c'est pas que je me mouille pas, c'est que tout n'est pas blanc ou noir. L'idée, c'est de dire que les femmes peuvent aussi être des championnes sportives et pas uniquement des filles sur le côté de la route.
Et pas seulement des femmes qui accueillent les champions voilà. Sur la tribune. Merci beaucoup,
merci
Marlène Schiappa, d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
Marlène Schiappa qui revendique sa participation au spectacle du monologue des vagins au nom de l'égalité femmes-hommes. Sur l'égalité des salaires, 7000 inspecteurs du travail seront donc en charge le respect de l'égalité salariale. Madame Schiappa annonce par ailleurs la mise en place d'une task force avec le Forum économique mondial. Enfin, ce qui marque la civilisation, ce sont les interdits, rappelle la secrétaire d'État concernant le consentement sexuel à l'âge de 15 ans. Merci à l'une et à l'autre. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.